Et oui, comment la presse quotidienne régionale négocie-t-elle sa place dans la grande conversion numérique? Comment les rédactions se font-elles à cette conversion? Quelles sont les initiatives en la matière? Voilà les questions qu'on va se poser ce matin. Et puis, il n'y a pas que les conséquences éditoriales, d'ailleurs, il y a aussi les conséquences économiques. Les quotidiens du jour, en volume, dans nos kiosques, ce sont d'abord des quotidiens régionaux. Alors, il était temps de passer la PQR, comme on dit, à la question numérique dans Place de la Toile. C'est donc ce qu'on va faire aujourd'hui avec nos invités, à commencer par Michel Lépinet.
Bonjour.
Bonjour, vous présidez le pôle des quotidiens normands du groupe Hersant, dont fait partie notamment Paris-Normandie. En face de vous, il y a Mathieu Mondoloni. Bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes membre de la rédaction multimédia des dernières nouvelles d'Alsace. Et entre vous deux, il y a Benoît Raphaël, rédacteur en chef du Poste.fr. Bonjour.
Bonjour.
Et ancien journaliste au Dauphiné et observateur attentif de la presse en ligne à travers votre blog Demain Tous Journalistes. Et par téléphone, dans quelques instants, nous aurons Christian Philibert, directeur en charge du multimédia à Ouest-France. Et puis, je rappelle que tout un chacun, auditeur, internaute, peut envoyer des remarques, des commentaires et des questions en direct pendant l'émission par le biais de Twitter. Et pour cela, il suffit d'ajouter à son mini-message Twitter la balise PDLT pour que ça puisse nous remonter à nos yeux. PDLT comme Place de la Toile, tout le mode d'emploi est expliqué sur le site de l'émission sur franceculture.com.
Alors, on peut peut-être commencer avec vous, tous les trois d'ailleurs, sur cette question de la presse quotidienne régionale par la crise. Est-ce que, d'une certaine façon, la presse quotidienne régionale est touchée de la même façon que la presse nationale? Est-ce qu'elle s'interroge sur son avenir de la même façon que la presse nationale s'interroge sur son avenir? Des états généraux de la presse se sont tenus il y a quelques mois. Est-ce que la presse quotidienne régionale était partie prenante? Question ouverte à tous les trois. Peut-être Michel Lépinet?
Oui, évidemment, la presse quotidienne régionale s'interroge sur son avenir. Elle serait bien inconsciente de ne pas le faire. Nous étions partie prenante des états généraux de la presse, bien sûr. Cela étant, la crise n'est pas vécue partout pareil. Nous avons, nous, presse quotidienne régionale, un atout, je dirais, pendant cette période de crise, c'est que notre marché local est régional, et que par conséquent, nous sommes sans doute moins frappés par la baisse des ressources publicitaires que ne l'est peut-être la presse quotidienne nationale. Quand c'est la crise, les annonceurs, ils ont besoin d'annoncer en proximité pour se rapprocher de leurs clients. Et puis, je dirais, deuxièmement, en ce qui concerne la diffusion, pour les mêmes raisons, quand c'est la crise, on a besoin de s'informer sur ce qui se passe autour, on a besoin d'être informé sur les bonnes idées, sur les bonnes façons de traverser la crise. Et là, c'est un marché, évidemment, pour la presse quotidienne régionale. Donc, je dirais, oui, nous souffrons, évidemment, de la crise, mais nous parvenons à résister, tant bien que mal.
Benoît Raphaël, est-ce qu'il y a un cocon pour la presse quotidienne régionale, un cocon protecteur par rapport à la crise qui frappe la presse en papier en général?
Il y a un cocon, en tout cas, parce que déjà le marché de l'information locale est un petit peu préservé, c'est-à-dire que c'est compliqué quand même de faire de l'information locale en ligne, en tout cas sur les recettes publicitaires, c'est clair que les baisses sont assez fortes, notamment sur le marché des petites annonces. Et puis la menace de Google aujourd'hui, qui s'est toujours renforcée sur le local et qui continue à y aller, puisqu'ils viennent de lancer un service mobile. Donc on est vraiment... Il y a un cocon, mais on voit la situation des quotidiens nationaux aujourd'hui, qui sont au bord du désastre. La presse locale n'y est pas encore, mais il faudrait qu'elle se bouge beaucoup, parce que ça devrait arriver dans pas longtemps.
Il y a effectivement la crise dont parlait Caroline à l'instant, elle s'exprime peut-être à travers cette question numérique, mais il y a aussi un paysage qui est en train de changer au-delà du numérique. Le numérique en fait partie, mais il y a des formats qui changent, par exemple, dans les journaux. Cette réflexion-là, elle est en cours depuis plusieurs années, Michel Lépinet.
Ben oui, cette réflexion, elle a commencé il y a longtemps déjà. Hein. Les premiers rétrécissements de format, les passages en tabloïd, ça date du début des années 2000. Donc tout le monde a fait, dans la presse quotidienne régionale, a fait cet effort de modernisation. Et ça rejoint la discussion qu'on a ici sur le multimédia. Parce que quel est notre défi à la presse papier? Notre défi, c'est d'arriver à répondre mieux, toujours mieux, aux attentes d'un public qui est de plus en plus sur Internet. Donc ça veut dire qu'il faut que nous, on en tire les leçons, tirer les leçons du succès de l'Internet, y compris dans notre production papier, apprendre à être interactif, apprendre à être proche de nos clients, comme l'est l'Internet.
Un public qui est de plus en plus sur Internet et qui, éventuellement, lit de moins en moins aussi le papier.
Ah, la tendance, elle est mondiale, on le sait. On a vu les difficultés traversées par les journaux américains qui sont aujourd'hui les plus touchés, en particulier par la baisse d'audience. Donc, évidemment, Internet touche. Mais ce que nous disons aujourd'hui, c'est quoi? C'est Internet, il est là. Si on apprend à faire avec, si on s'en empare, nous, presse écrite papier, eh bien, on va inventer un nouveau média qui sera un média vraiment multiple, dans lequel nous aurons du papier, de l'Internet, mais aussi de l'organisation d'événements. Enfin, je parlerai un petit peu peut-être de ce qu'on fait au niveau du pôle Normand, mais notre idée, c'est ça. Notre idée, c'est le média total, dans lequel il y a du papier et il y a de l'Internet.
Il faut peut-être faire une parenthèse pédagogique pour... On parle de la presse quotidienne régionale, à moins que mes chiffres soient faux. On parle de 6 millions d'exemplaires diffusés chaque jour et de 18 millions de lecteurs. C'est bien ça ?
Exactement.
Tout le monde confirme. Bon, Mathieu Mondoloni, est-ce qu'on peut dire que la presse quotidienne régionale s'est lancée plus tôt que la presse nationale dans Internet, ou est-ce que c'est faux ? Vous, vous êtes membre de la rédaction multimédia des DNA, les dernières nouvelles d'Alsace. Les dernières nouvelles d'Alsace sont le premier journal à s'être mis intégralement en ligne ?
Effectivement, en 1995, on est le premier journal à avoir complètement dupliqué le contenu de notre formule papier sur Internet. Au début, totalement gratuitement. Après, en 2005, on est entre guillemets revenu en arrière, c'est-à-dire qu'on a choisi d'avoir un site qui était en partie payant, en particulier pour ce qui concerne l'information locale et régionale, donc notre force, et une partie gratuite pour ce qui concerne l'information sportive nationale et l'information générale. Et depuis 2007, nous, on a développé le service de la rédaction multimédia, et en particulier depuis 2008, c'est assez récent, on est désormais quatre journalistes à s'occuper du multimédia aux dernières nouvelles d'Alsace.
Donc. Et vous, Michel Lépinet, vous avez dirigé GSO Internet, qui
oui.
est la filiale regroupant les initiatives numériques du groupe Sud-Ouest. Et le groupe Sud-Ouest était précoce dans son engagement pour l'information en ligne, puisque le premier site de sudouest.com a été créé en 1996.
Bien sûr, le site sudouest.com est très ancien, je dirais. On a démarré très tôt, le groupe Sud-Ouest avait démarré très tôt, peut-être un peu trop tôt, parce qu'on était avant la bulle, avant l'explosion de la bulle Internet, et qu'on a pensait pouvoir se développer très très vite, et puis comme tout le monde, on s'est rendu compte que ça n'allait pas aussi vite que prévu, donc ce qui nous a amené à réviser à la baisse, mais en même temps en termes de longévité, le site sudouest.com est un des sites les plus anciens, effectivement, avec un gros trafic.
Benoît Raphaël, est-ce que la presse quotidienne régionale a connu les mêmes mouvements? On a entendu à l'instant, dans la bouche de Mathieu Mondoloni, du gratuit, puis 10 ans plus tard, du payant. Il y a effectivement ces tendances-là qui sont vues dans la presse en général, qui se sont vus aussi dans la presse quotidienne régionale.
Je crois qu'il y a eu du mal vraiment à démarrer, mais pour vraiment bien comprendre, enfin moi je me souviens quand je travaillais au siège du Dauphiné Libéré, les rotatives étaient dans le siège en fait, directement dans le bâtiment, et le soir vers 22h quand les rotatives commençaient à arriver, tout le bâtiment vibrait et il y avait une espèce de balcon où on pouvait voir en fait le journal sortir, et là on se rendait compte quand même de la puissance de ce média qui, sur le plan local, les médias locaux et la presse quotidienne régionale a réussi à bâtir un véritable empire. Et donc, quand les rotatifs sortaient, c'était presque quasiment tout le département qui tremblait. Et je crois que c'est cette espèce d'attachement en fait complètement irrationnel au papier, très fort, très physique en fait, que moi j'ai vécu aussi parce que je viens du papier. Il explique aussi un petit peu le désarroi qu'on a aujourd'hui face à un renversement des modèles qui va vers le tout digital. On est en train de perdre quelque part cette sorte de puissance industrielle qui était la presse quotidienne régionale, qui doit évidemment maintenant aujourd'hui revenir au centre des communautés. Mais on se rend compte que la difficulté, c'est qu'il y a un vrai attachement irrationnel à cette puissance du papier qui a accompagné la presse quotidienne régionale pendant plus de 50 ans.
Michel Lépinet parlait tout à l'heure de la nécessaire adaptation, à commencer par les journalistes eux-mêmes, hein, aux médias qu'est Internet. Vous, Benoît Raphaël, quand vous étiez au Dauphiné Libéré, vous avez été pionnier avec le site quelcandidat.com, c'était en 2007, c'était lors des présidentielles. L'idée, c'était de lancer un média participatif, donc il y avait cette idée de demander à des journalistes de s'adapter déjà à ce média qu'était Internet, en demandant une collaboration, une participation et un aller-retour entre les lecteurs et les journalistes.
Alors en fait, on attaquait le problème par la marge, parce qu'en fait, on n'arrivait pas en fait à lancer une grande stratégie parce qu'il y avait des blocages partout, et on se rendait compte qu'on n'aurait pas pu aller assez vite en fait. Donc on s'est dit, on va travailler sur un petit média à côté, sur une autre marque. On est même parti d'ailleurs sur une dimension nationale, puisque on a profité de l'arrivée des élections présidentielles
sur un événement, pas de stratégie générale. Donc on s'accroche aussi à un événement, à un moment ponctuel. Alors,
sur un petit projet qui coûtait pas cher, qui était mené par deux journalistes, j'en faisais partie. On travaillait jusqu'à 3h du matin pour mettre ça, et surtout on a fait un média participatif. On essaie d'y mettre toutes nos idées et d'expérimenter tout ce qu'on avait envie d'expérimenter à ce moment-là et de faire une démonstration. Et effectivement, en 2 mois, le site a explosé. On a fait quasiment 2 millions de visites en 2 mois. Donc ça a fait l'effet d'une petite bombe en tout cas à ce moment-là, et ça a permis de basculer un petit peu les choses au sein des rédactions, et surtout de faire comprendre que ça marchait sans faire peur, parce que c'est toujours très compliqué de déployer des stratégies, surtout des stratégies globales au sein d'un groupe régional.
Et il y avait aussi une expérience à peu près au même moment, qui passait par le biais d'un blog, mais ponctuellement sur un village aussi bénéficiant de l'événement élection présidentielle.
Ouais, on a fait un blog collaboratif où je me suis déplacé dans le village. Il y a beaucoup de vidéos. Et on a réuni les habitants. Il y avait des réunions régulières qui étaient assez étonnantes parce que du coup, c'était aussi des réunions citoyennes où les gens parlaient politique, réfléchissaient sur leur engagement et communiquaient à travers tout le village, à travers un blog qui était hébergé sur le site. Et donc, du coup, là, on retrouvait un petit peu les valeurs d'un quotidien régional qui est d'animer des communautés et de se remettre au centre de la place du village ou de la ville à l'occasion de grands événements, par exemple comme celui de l'élection présidentielle.
Mettre un village sur le village mondial.
Ouais.
Mathieu Bandoloni, est-ce que ce travail sur le local, qui est la force de frappe de la PQR, c'est donc un travail sur la proximité? Est-ce qu'au DNA, vous travaillez également sur la proximité et donc sur la participation?
C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Effectivement, c'est notre force dans la PQR. C'est le local, le régional, le traitement de cette information-là. Nous, on l'a fait au moment des élections municipales, puisqu'on parlait des élections présidentielles. On l'a fait au moment des élections municipales où on a lancé... donc, on a plusieurs agences réparties dans toute la région et on a lancé un blog par agence, quoi, pour traiter de l'actualité municipale. C'était assez intéressant parce que là se mêlaient à la fois les candidats qui venaient débattre sur notre blog, les journalistes qui venaient répondre et débattre avec les candidats, et les internautes et électeurs qui venaient également se mêler à ces débats sur ces blogs-là. Ça a pas mal fonctionné, il y a eu beaucoup de succès. Et par la suite, on a essayé de les transformer en blogs de local, donc pour poursuivre les débats avec toujours les internautes.
Une douzaine de blogs locaux, c'est ça, qui correspondent à des éditions, Colmar, Mulhouse, Sarre-Union, Strasbourg, Saverne,
ouais, enfin, il y en a beaucoup, effectivement. Effectivement, et ça n'a pas le même succès parce qu'on parlait tout à l'heure de l'événement. L'événement, à mon sens, joue beaucoup, et en particulier dans la PQR, on peut saisir d'événements pour essayer de lancer ces nouveaux médias. Mais sinon, on reste toujours sur une espèce de traitement assez traditionnel de l'information. Donc le basculement s'est fait, ça fonctionne, mais c'est effectivement moins bien que sur le blog des municipales. Quoi.
Alors si on réfléchit aux différentes stratégies de développement de la PQR sur le web, on voit aussi que d'une certaine façon, la télé peut apparaître comme un débouché. Dès 2000, Canal Web s'est associé avec 5 titres de la PQR pour créer TV Web Région, le premier réseau des télévisions locales sur Internet. La télévision, c'est quelque chose qui peut intéresser la PQR, Michel Épinay?
Oui, c'est quelque chose. Tous les médias qu'on peut utiliser au niveau local nous intéressent, évidemment. Donc la télévision aussi. La télévision, elle pose juste un petit problème, c'est qu'elle est extrêmement coûteuse. Donc oui, donc on développe des expériences télé. On en fait plus ou moins. On renonce aux projets les plus coûteux. On en crée d'autres. Je dirais, moi, ce qui me paraît important, c'est pas tant de raisonner en médias télé ou en média papier ou en média internet, c'est de raisonner en multimédia. C'est-à-dire, oui, l'image qui bouge, j'ai envie de dire. On en a besoin sur Internet, on en a besoin sur nos sites, demain on en aura besoin sur les récepteurs mobiles. Il nous faut de l'image qui bouge. Alors ça, oui, travailler sur la vidéo, oui, on le fait. Je sais, nos collègues le font aussi, évidemment. Mais je voudrais prendre un exemple, si vous me le permettez, de ce que je disais tout à l'heure sur le média total. On a, en début d'année, à Paris-Normandie, enfin, au titre du pôle normand, on s'est posé une question, on s'est dit, on est en train de s'enfoncer dans une crise qui va être très dure, et nous allons nous retrouver, nous, quotidien régional, en situation de faire la chronique quotidienne du désastre. Et on s'est dit, si on fait ça, eh bien, on ne va pas donner envie à nos lecteurs de nous lire.
Là, vous parlez de la crise économique.
Je parle de la crise économique qui nous entoure plus largement. Et donc, on s'est dit, on ne va pas donner envie aux lecteurs de nous lire si tous les matins, on leur sape le moral. Donc, on s'est dit, ben, on va imaginer un truc, on va lancer « Abat la crise ». Donc, on a lancé cette idée « Abat la crise ».
.com.
Donc, d'abord, c'était une rubrique dans le journal où on recensait toutes les initiatives anti-crise, solidarité, débrouille individuelle ou collective, etc., de la région. On a lancé en même temps un site internet, « Abat la crise.com ». Et puis, on s'est rendu compte assez vite que ça marchait, que ça intéressait les gens, qu'on avait beaucoup de remontées, d'initiatives, d'idées, de commentaires sur le site Internet. Et donc, on s'est dit, ben, il faut faire un pas de plus. Et on était parti du papier, puis à l'Internet. On est revenu vers le papier en disant, on va faire un numéro spécial qu'on va diffuser sur la région, un numéro spécial du journal, qui va reprendre toutes les initiatives à bas la crise. Et ce numéro, on a dit, mais pour que les gens y aient accès, on va le faire gratuit.
Et ça, c'était cette semaine?
C'était cette semaine. On a fait un numéro gratuit, c'est la première fois que ça arrive dans la PQR. On a diffusé ce numéro à 205 000 exemplaires, et avec un écho formidable des gens qui l'ont eu, qui ont trouvé que c'était une initiative formidable. Et à la suite de ça, on a organisé un débat public, toujours sur le thème à bas la crise au Havre. Et donc, on a rebouclé l'Internet, le papier et la rencontre directe avec le
physique,
client.
La rencontre physique. Voilà. Et tout avec ça dans le même. Et d'après vous, vous poursuivez en fait le rôle qui est celui d'agitation, d'actualité, qui est celui du journal
de
presse quotidien.
Média de proximité. On est média de proximité, mais on est média global. On a recours à tous les supports, toutes les plateformes, toutes les idées qu'on trouve pour animer la vie locale.
Encore une fois, autour d'un événement, d'un moment, en tout cas d'une actualité, une cristallisation par les élections municipales, présidentielles. En l'occurrence là, le moment de la crise qui est plus long, mais effectivement qui est un événement. Et autour de ça, trouver un modèle qui articule le papier, le web, en tout cas le numérique.
On dit toujours qu'on est à la recherche de modèles économiques, mais on trouvera un modèle économique que si on trouve un modèle de relation à nos clients. Et le modèle de relation à nos clients, c'est d'être tous les jours à leur côté pour les aider dans leur vie quotidienne. C'est ça notre rôle.
Ce modèle, on a compris, donc entre les débuts où on cherchait un modèle même éditorial, un peu plus massif, qui était difficile à trouver, et ces événements, ces modèles éditoriaux liés à des événements, on voit qu'il y a eu une évolution en quelques années, mais il y a un modèle qui a réussi, qui continue aujourd'hui, qui s'appelle maville.com, et qui est non pas là lié à un événement ponctuel, mais qui est une politique éditoriale, menée, en tout cas lancée il y a plusieurs années, en 99, par Ouest France, et nous sommes en ligne justement avec Christian Philibert, qui est directeur en charge du multimédia à Ouest France. Bonjour.
Oui, bonjour.
Vous étiez déjà en charge du multimédia à Ouest France au moment où s'est lancé ce maville.com ?
Oui, absolument. Oui, on a lancé ça donc en 1998, en réfléchissant sur les différentes stratégies que l'on pouvait avoir pour donner de l'information, du service de proximité, et comme l'a bien expliqué les gens juste avant moi, donc comme une de nos qualités, c'était de faire évidemment de l'information de proximité, du service de proximité, donc on a lancé le projet maville.com d'abord dans l'Ouest,
mais rapidement, vous n'avez pas été seul dans maville.com, il y a 7 groupes de presse qui se sont rassemblés autour de ce projet-là.
Alors, de ces dernières années, oui, le projet commence à prendre une ampleur nationale, puisqu'avec La Voix du Nord, La Nouvelle République du Centre-Ouest, Centre-France, le Midi Libre, Nice Matin et Sud-Ouest, on est en train de développer au niveau national donc le concept maville.com. Donc aujourd'hui, on doit avoir ouvert pas loin de 80 villes au niveau français.
Alors 80 villes autour de maville.com, donc il y a le nom de la ville.maville.com pour trouver les adresses. Il y a un portail aussi maville.com par lequel on peut entrer. Mais est-ce que c'est possible de trouver une ligne éditoriale? Faut-il une d'ailleurs de ligne éditoriale quand il y a 7 groupes de presse et autant de villes rassemblées derrière un même label, Christian Philibert?
Alors il y a bien sûr une ligne éditoriale à maville.com, hein. on est bien sur le développement de City Guide ou de portail de proximité, axé sur l'information, l'information service, le loisir de proximité, et on a la même ligne entre tous nos confrères, même si chacun après, en fonction de ses particularismes locaux, après développe les choses de façon des fois légèrement différente, mais globalement on retrouve le même type d'information, le même type de service sur tout le réseau, oui.
C'est une manière réussie, une réussite en termes d'infos micro-locales, puisque c'est aussi au cœur de notre discussion ce matin, c'est comment saisir le micro-local et le faire vivre en ligne.
Oui, c'est plutôt un succès, c'est un succès d'audience, hein, puisque dans l'Ouest, où on travaille depuis maintenant une dizaine d'années, on est à peu près à 4 millions de consultations par mois, donc ça marche très bien. Et ce qui est intéressant aussi en termes de réflexion, et c'est pour ça qu'on a amené ça, c'est que c'est très complémentaire des sites, des journaux, puisque nous aussi, au niveau de Ouest France, on a lancé westfrance.fr hein, depuis un certain nombre d'années, et on s'aperçoit qu'on peut, grâce à ces deux modèles, toucher énormément d'internautes différents, avec très peu de recouvrement de cibles. Donc ça nous permet vraiment de montrer toute la qualité de ce que nous faisons au niveau de Ouest France au plus grand nombre possible d'internautes.
C'est-à-dire que les gens qui lisent Ouest France, par exemple, ou qui regardent westfrance.fr ne sont pas très peu ceux qui vont sur maville.com pour ce qui concerne l'Ouest.
Alors, dans ce sens-là, je le dirais pas, mais en tout cas, les gens qui consultent westfrance.fr en ligne et les gens qui consultent maville.com dans l'Ouest, il n'y a que 13% de recouvrement. Donc, vous voyez, il y a peu de gens qui sont sur les deux sites. Donc, chacun, suivant la façon dont il veut consommer de l'information, utiliser les services, trouver des petites annonces, des choses comme ça, à ce moment-là, utilise un site en fonction de ses intérêts.
Vous avez trouvé la martingale avec maville.com, c'est-à-dire d'un côté maximiser l'audience et de l'autre côté, en se mettant à plusieurs groupes de presse rassemblés, on fait aussi des économies sur la publicité, on optimise la publicité, Christian Philibert.
Alors, on n'a pas encore complètement trouvé la martingale. C'est sûr que c'est un modèle qui se développe bien, mais il va falloir d'abord compléter le réseau au niveau national, puisque maville.com, son objectif est d'être national. Donc, pour l'instant, je vous explique qu'on couvrait 7 grandes régions, mais on ne couvre pas encore tout à fait la France. Et puis, il faut continuer à développer le modèle économique, puisque pour que ce soit pour les sites de journaux ou pour le réseau Ma Ville, les modèles économiques sont encore en construction pour la plupart, oui.
Benoît Raphaël, maville.com, c'est un réseau, c'est un regroupement, c'est une alliance de plusieurs groupes de presse, mais il existe aussi des journaux qui se développent sur Internet en développant d'un côté les services de proximité, de l'autre en faisant ce que disait Michel Lépinet tout à l'heure, c'est-à-dire en créant un média total. On parlait de multimédia jusqu'à présent. Aujourd'hui, on peut même parler pour certains groupes de presse ou pour certains journaux de trimédia. C'est-à-dire qu'on trouve, par exemple, à Grenoble, un nouveau site, un nouveau journal en ligne qui s'appelle grenews.com. Vous avez, je crois, participé à son lancement. C'est, en quelque sorte, une actualité 3 en 1. C'est un gratuit, c'est une web télé et c'est un site. Et c'est un projet qui est, une fois encore, porté par le Dauphiné Libéré. Il a été créé il y a un an.
Oui, alors, enfin, en fait, je trouve que l'appellation de trimédia, je trouve que c'est ce qui a été dit au lancement,
joli,
mais
hein.
Je pense que c'est pas très joli, mais c'est aussi
un peu retour par rapport à multimédia, mais il n'y en a plus que
vrai. Oui, alors, il y a eu bimédia, on va dire, quadramédia, etc. Je pense que c'est ce que je trouve vraiment intéressant, notamment dans l'expérience de Paris-Normandie, avec Abat la crise, c'est qu'en fait, on se rend compte qu'on n'est plus en train de parler. Je suis pas tellement d'accord avec l'idée de médias global. Je crois que c'est surtout, en fait, on est en train de renverser le modèle. Et en fait, ce qui se passe aujourd'hui, on vit une révolution aujourd'hui qui est l'équivalent de la révolution de l'imprimerie, donc il y a plusieurs siècles, et donc avec des modèles qui sont en train de se renverser complètement, et on est intelligent quand on a compris que finalement, ce qui s'est passé avec Paris-Normandie, je vais revenir sur Grenoble, mais sur Paris-Normandie, c'est qu'en fait, on installe une vraie relation avec la communauté sur Internet, parce que la communauté, elle s'organise sur Internet, c'est beaucoup plus facile, les gens s'expriment, ont pris l'habitude de s'exprimer, et de cette conversation-là, on en fait un magazine, on en fait hors série, brusquement on revient sur le papier. Donc le papier n'est pas mort, on a simplement renversé le modèle.
C'est-à-dire qu'on pense l'édition papier comme un complément du site.
On s'est rendu compte qu'actuellement, la réalité, la communauté, elle est sur le digital. Elle est sur le numérique, elle est sur le dématérialisé, c'est là que ça se passe, c'est là que les gens conversent. C'est exactement ce qu'a fait Obama lors des élections présidentielles, c'est comme ça qu'il les a gagnés, en organisant les communautés sur Internet et en ne considérant pas Internet comme un média, mais comme un moyen d'organiser des communautés qui existaient déjà. C'est ce qui a été fait là. Et du coup, le papier, ça devient un accessoire vraiment intelligent, ça devient utile, et on renverse ça. Et à Grenoble, c'est ce qu'on voulait faire au départ, c'était justement d'avoir un média qui soit sur Internet, qui soit uniquement sur Internet, c'est un pure player, où il y a de la vidéo ou pas, il y a de l'information locale, il y a des communautés, et ensuite on sort un gratuit. Et le gratuit marche très bien, et c'est le cas d'ailleurs, le gratuit papier, qui permet de financer le média web, parce que le modèle économique sur Internet n'est pas encore évident. Par contre, sur le papier, ça marche. Donc, en fait, il dégage de l'argent grâce au papier qui permet de financer Internet.
Grenews, qui est donc une initiative qui est très participative, on peut poster, on peut participer, vous avez parlé, on dit plus électorat d'une certaine manière, on dit communauté maintenant, Benoît Raphaël.
Oui, alors grenews.com, moi j'avais inspiré le projet, ensuite il a été fait par des équipes et il s'est monté quasiment tout seul. Il n'est pas tellement participatif d'ailleurs aujourd'hui, mais vraiment ce qui est intéressant, je trouve, c'est cette dimension en fait de ce qu'on appelle le reverse publishing, c'est qu'en fait on démarre de l'internet et on sort du papier.
Mathieu Mandoloni et Michel Lépinet, qu'est-ce que vous pensez de ce reverse publishing?
Je ne peux pas adhérer à l'idée que le papier est devenu accessoire. Le papier n'est pas devenu accessoire.
Et gratuit.
Et gratuit en l'occurrence.
Je n'ai pas dit accessoire, j'ai dit intelligent. C'est-à-dire qu'en fait, il devient...
Mais complémentaire quand même, vous avez dit.
Moi, je crois qu'on est dans une complémentarité. Je crois qu'il faut revenir à l'essence des choses. L'essence des choses, c'est quoi? Quel est notre métier? Notre métier, c'est de nous adresser à un public qu'on peut appeler lecteur, internaute, client. C'est de s'adresser à des gens. Et la base du modèle, elle est là. Alors après, le problème n'est pas de savoir qu'est-ce qui est au-dessus de quoi, qu'est-ce qui est avant quoi. Le problème, c'est de mettre tous les moyens possibles au service de ce dialogue avec le client. C'est pour ça que je dis média global, parce que je veux dire que tout ce qu'on fait est orienté vers le dialogue avec le client, avec l'internaute, avec le lecteur, selon la façon dont on le désire.
Mais Michel Lépinet, ça n'empêche pas d'être au service du lecteur, que de lui donner un journal une fois par semaine, par exemple, de lui distribuer gratuitement un journal et de lui proposer à lire en ligne le reste des informations.
Moi, je ne suis pas contre. Je dis simplement, les journaux qui ont fait ce choix-là aux États-Unis, il y en a quelques-uns qui commencent à faire ce choix-là. C'est un choix qui passe quand même faut se le rappeler, par le licenciement des trois quarts des rédactions, parce qu'on ne peut pas aujourd'hui trouver le modèle économique pour financer sur le numérique une rédaction qui soit capable d'amener une vraie valeur ajoutée en termes rédactionnels. C'est ça la difficulté qu'on a aujourd'hui. C'est que moi je suis pour le fait, publier de l'information en temps réel, on le fait en permanence. Et c'est complémentaire du papier. Il reste une chose, c'est qu'aujourd'hui, j'étais il y a quelque temps au Japon, j'étais en visite à l'Asahi Shimbun, je peux vous dire qu'aujourd'hui, la ressource numérique pour l'Asahi Shimbun, c'est 1% du chiffre d'affaires. Donc il faut quand même revenir sur les réalités. Aujourd'hui, c'est le papier qui tire encore le modèle de communication et il y en a pour un moment encore.
C'est pas la rédaction qui coûte cher, en fait. Hein. C'est la production, la distribution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, produire un journal papier, ça coûte de plus en plus cher. Et même si on baisse la diffusion, ça coûtera toujours aussi cher. Donc en fait, ce qui coûte cher, c'est pas tant la rédaction que la distribution et la fabrication, qui s'est fait environ 70% en fait des coûts de production.
Pas 70%, vous exagérez. Mais c'est vrai que c'est ça qui coûte cher, on est d'accord. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que lorsqu'on bascule d'un modèle sur l'autre, comme on n'est pas capable de rapatrier en même temps les ressources publicitaires, eh bien on se retrouve devant une impasse et on est obligé de faire ce qu'a fait le Los Angeles Times, 50% de la rédaction licenciée. Parce qu'on ne peut pas, aujourd'hui, avec le modèle économique qu'on a sur Internet, financer des équipes rédactionnelles d'envergure.
Peut-être aussi parce qu'on a du mal à supprimer la moitié de l'imprimerie, la moitié des rotatives, alors que c'est plus simple de couper en deux une rédaction.
C'est vrai aussi, vous avez raison, le problème technique est central. Je suis d'accord avec vous, le problème de l'outil de production est central, et c'est ce qui nous... Si vous me permettez l'expression, c'est ce qui nous plombe, la presse quotidienne, c'est cet outil de production. Mais attention de ne pas imaginer qu'on bascule d'un modèle à l'autre, d'un claquement de doigts, il faudra du temps.
Christian Philibert, vous êtes encore avec nous pour quelques minutes, puisque vous devez partir avant la fin de cette émission. Quel regard vous avez justement sur ce débat-là, entre papier et support numérique? Alors, la fin du papier ou la complémentarité?
En tant que directeur du multimédia à Ouest France.
Nous, on travaille énormément sur la complémentarité, c'est sûr. Alors, la difficulté, c'est d'arriver à être complémentaire et puis que chaque média puisse aussi se développer le plus possible dans son écosystème et dans son modèle économique. Donc, c'est bien ça la difficulté. Pour ce qui est de la diffusion de contenu, nous, on a fait de gros efforts et de gros travaux avec la rédaction pour que la rédaction soit entièrement bimédia. Donc aujourd'hui, c'est le cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la rédaction de Ouest France, donc plus de 500 journalistes, à tout moment, peuvent être soit sur, bien sûr, pour travailler pour le journal, travailler que sur l'Internet ou travailler sur les deux. Et ça se passe plutôt bien avec, dans les choses qui ont été très bien réalisées ces derniers temps, c'est ce qu'on appelle les dernières minutes d'actualité. Aujourd'hui, on a pas loin d'un millier par semaine d'informations temps réel qui sont envoyées de toutes nos rédactions partout localement et qui donnent vraiment une actualité très chaude sur le média Internet, donc vraiment très réactive. Et là, le média joue toute sa fonction. Et puis, de l'analyse du complément dans le journal. Donc là-dessus, ces choses-là se passent plutôt bien. Par contre, c'est vrai que sur les réflexions sur le modèle économique, on travaille aussi dans les mêmes sens et avec les mêmes questions et les mêmes difficultés, bien sûr.
Merci d'avoir été avec nous, donc, Christian Philibert, dont je rappelle, vous êtes directeur en charge du multimédia à Ouest France. Et dans cette dernière intervention, vous avez soulevé pas mal de questions, en particulier la question de la temporalité de l'information. Et Mathieu Mondoloni, justement, aux dernières nouvelles d'Alsace, très récemment, et encore une fois à l'occasion d'un événement en particulier, qui était le sommet de l'OTAN, il y a eu une initiative éditoriale où justement la question du temps, le temps de l'info papier, le temps de l'info sur le support numérique, était centrale.
On savait au moment de la tenue du sommet de l'OTAN, donc nous on a démarré en amont, effectivement on a lancé un site internet qui s'appelait otan-strasbourg.na.fr. On savait au moment de la tenue du sommet de l'OTAN qu'il y aurait 4000 journalistes au monde qui allaient venir à Strasbourg couvrir cet événement, qui est le sommet de l'OTAN, et le contre-sommet qui allait avec. Nous, c'est notre ville, Strasbourg. C'est là qu'on a notre siège aux dernières nouvelles d'Alsace. C'est là qu'on a nos grosses équipes. Donc, on a décidé de lancer ce site en se disant, on va jouer notre carte. On connaît la ville, on a les contacts. Et on va faire un site d'info en temps réel, basé donc sur les informations recueillies par nos journalistes, par nos équipes sur le terrain, pour faire vivre en premier, je le dis bien, l'information autour de cet événement. Ça a très bien fonctionné. On a eu 850 000 pages vues en 10 jours. On a eu 190 000 visites. C'est vraiment une réussite pour nous dans le traitement multimédia de l'information. Et effectivement, on l'a joué sur la complémentarité. C'est-à-dire que là, on donnait le factuel parce qu'on savait qu'il y avait des radios, des télés, nos confrères de l'AFP qui étaient là et qui pouvaient donner tout de suite l'information. Donc le but, c'était nous de le faire avant eux sur le site, ce qu'on a réussi à faire sur beaucoup de choses. Et derrière, c'était de l'analyser dans le journal avec des témoignages, des réactions, comment ça s'est passé pour vous. Et ça a bien fonctionné.
Mathieu Mandoloni, j'aimerais avoir votre avis sur ce que proposait Benoît Raphaël à partir de l'expérience de Grandnews.com, mais d'une certaine façon, la presse locale américaine réfléchit à ce modèle de complémentarité, sauf que là, dans la plupart des cas, les hebdos qu'il propose en supplément du site sont payants, en tout cas c'est le cas du Monitor de Boston. Que pensez-vous de, non seulement de cette complémentarité, mais de la question de savoir si le supplément papier qu'on distribue, par exemple, une fois par semaine, la question de savoir si on le distribue gratuitement ou si on le fait payer. Parce que d'une certaine façon, j'ai le sentiment que c'est en contradiction avec ce qui se passe de façon générale dans la PQR, c'est-à-dire qu'on distingue bien les informations générales et les informations locales, que la force de frappe, c'est le local, et il se trouve que beaucoup de journaux font payer l'accès à l'information locale sur leur site. Donc, j'aimerais avoir votre avis, puis d'ailleurs à tous, sur cette question-là.
Moi, je pense que l'information, elle a un coût, forcément, quoi. Enfin, je veux dire, c'est fait par des journalistes, par des professionnels. Pour avoir une information de qualité, il faut qu'il y ait un prix à payer. On ne peut pas se passer de ça, à mon sens. Après, on parlait du modèle économique sur Internet. Aujourd'hui, il n'existe pas, nulle part. Hein. Aussi bien pour les pure players que pour les journaux, pour les médias Internet qui sont adossés à des journaux, comme c'est le cas chez nous. Quoi.
Voilà déjà une réponse à quelqu'un qui intervient pendant l'émission sur Twitter, qui signe Blog Info et qui dit « Vous parlez de modèle économique sans jamais le définir. Quel est votre modèle économique ?» En fait, on cherche tout simplement, Mathieu Mondelier.
Nous, on est clairement adossés au papier. Enfin, je veux dire, on ne pourrait pas exister aujourd'hui. Alors, déjà, comme je le disais tout à l'heure, on est 4 journalistes à composer la rédaction multimédia. Les dernières nouvelles d'Alsace, c'est 200 journalistes. Hein. Donc, vous voyez le ratio entre les moyens déployés sur le papier et les moyens déployés sur Internet. Donc voilà, nous, on est adossés au journal. Notre force, encore une fois, c'est l'ensemble de ce réseau de journalistes qui est déployé sur la région et qui va nous faire remonter des informations. Donc, si vous me demandez si demain le modèle, là, je vais rejoindre Michel Épinet, si le modèle économique de la presse se passera du papier, moi, ma réponse, elle est non. Quoi. Enfin, je vois pas comment, à l'heure actuelle, c'est possible.
Benoît Raphaël, vous êtes passé du Dauphiné Libéré au Poste.fr, qui est une version nationale du site adossé au Monde. On a une question de S. Bailly sur le fil Twitter. À quand une version gratuite du Poste.fr chaque semaine sur papier, une perspective d'évolution pour le Monde, point d'interrogation.
Jouons la transparence, Sébastien Bailly travaille avec Michel Lépinet à Paris-Normandie.
D'accord. c'est une bonne question, d'ailleurs. Je trouve que c'est... Moi, je crois beaucoup au papier. Enfin, je pense que le modèle industriel du papier aujourd'hui est mort, c'est clair. Je pense par contre qu'il doit se réinventer, un petit peu comme on a fait avec la photo, où on a mis toutes les photos sur Internet. Il y a eu de plus en plus de gens qui ont fait des photos. Du coup, on s'est retrouvé à les imprimer beaucoup plus. Donc, moi, je crois beaucoup à ce modèle-là. Je pense que l'avenir de l'information... et notamment l'information sur papier, enfin avec ce retour sur papier, il est local. Le Poste.fr, d'ailleurs, est un site qui est essentiellement local. Toute sa stratégie était basée sur le local, même si on ne le dit pas, même si on ne le voit pas vraiment. Mais en fait, l'essentiel de notre audience se fait sur le local, beaucoup sur le fait divers, sur le débat local, etc. Et c'est vrai que s'il doit y avoir un jour du papier, ça sera plutôt sur le local. Et je reviens sur le reverse publishing. Alors, vous parliez des États-Unis, en fait. Il y a de nombreuses initiatives locales qui se font. L'hebdo est gratuit. En fait, on a notamment, je prends l'exemple du Northwest Voice, en Californie, qui est un petit journal local, qui a créé en fait un site internet participatif, donc où les citoyens participent et contribuent. Et ensuite, il y a toutes les semaines une version papier avec les meilleures contributions qui est distribuée gratuitement dans les boîtes aux lettres. Et le site gagne de l'argent. Le site fait assez peu d'audience, par contre, il gagne de l'argent grâce au papier. Donc je pense qu'il y a un vrai modèle local aujourd'hui qui se base sur les communautés, sur Internet. On organise les communautés sur Internet et ensuite on sort du papier. Donc pour le Poste, moi j'aimerais bien, mais en tout cas, si on doit faire quelque chose et si on doit se développer, demain ça sera sur le local parce que c'est vraiment là où ça se passe.
C'est intéressant ce que vous disiez sur le Poste.fr, sur ça, la structure, le fonctionnement, Benoît Raphaël. Vous dites, mais d'ailleurs on peut le lire, que ce fonctionnement participatif a été inspiré du fonctionnement des correspondants de presse sur le papier qui existe depuis des décennies en presse quotidienne régionale. Est-ce que d'une certaine manière, les uns les autres, est-ce que la PQR, la presse quotidienne régionale, n'avait pas un temps d'avance sur le participatif qu'il faut maintenant évidemment transformer sur l'écran? Mais est-ce qu'il y avait ce temps d'avance? Michel Épinay.
Oui, on peut le dire effectivement. Ça fait les quotidiens régionaux travaillent depuis toujours avec beaucoup de correspondants. Jusqu'à un correspondant par commune, certains quotidiens, en particulier dans l'Est, où ils ont énormément de correspondants. Donc des réseaux qui sont des réseaux contributifs, où les gens contribuent, apportent l'information sur ce qui se passe autour d'eux. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, on n'est pas très éloigné. On n'est pas très éloigné et ça devrait être une facilité pour nous de passer d'un modèle à l'autre, ou du moins de mettre les deux modèles en complémentarité, parce qu'on a cette culture du local, on a cette culture de la proximité, on a cette culture de la contribution. Ça fait longtemps qu'on a compris en presse régionale que c'est pas que le journaliste, s'il n'y a pas quelqu'un qui vient lui porter l'information, il ne sait pas faire. Et donc, c'est pas nos journalistes qui vont chercher l'information dans les villages, c'est nos correspondants qui nous l'apportent. Alors, nos journalistes la traitent, lui donnent des enjeux, lui donnent de l'ampleur, font du journalisme. Mais on a ce rapport au terrain, on l'a, et c'est ça qui fait notre force, c'est ça qui fait qu'on résistera, et je rejoins complètement Raphaël là-dessus, c'est ça qui fait qu'on trouvera un modèle économique. Et qu'on continuera à se développer.
Et dans la mesure, Michel Épinay, où c'est ça qui fait qu'il faudra qu'on trouve un modèle économique, est-ce que vous êtes pour faire payer l'accès à cette information locale sur les sites ? Est-ce que vous êtes pour le développement du gratuit ?
Moi, je suis pour qu'on fasse... Le problème du gratuit ou du payant sur Internet, il faut l'aborder, à mon sens, par la valeur ajoutée. Si on donne sur Internet la même chose que ce que donne Google demain, c'est pas la peine de rêver de le faire payer. Si on apporte une valeur ajoutée, on pourra faire payer. C'est-à-dire, il faut qu'à un moment donné, vous apportiez à votre client quelque chose qu'il ne trouve pas ailleurs. À ce moment-là, vous pouvez le faire payer.
Et donc, convaincre les lecteurs que les contenus ont un prix.
Voilà. Convaincre les lecteurs que les contenus ont un prix. Mais ça, je veux dire, le modèle de gratuité, on est dedans. C'est pas la peine d'espérer qu'on va inverser cette culture. On n'inversera pas cette culture. Ce qu'il faut, c'est simplement montrer aux gens la valeur de ce qu'on leur apporte. Et donc, cette valeur, ils la paieront. Si ça a une valeur, non pas par le coût de production, parce que c'est entré dans les mœurs que le coût de production n'est pas répercuté, mais si ça a une valeur pour eux, dans leur vie quotidienne. On revient toujours vers le client. Le modèle économique, il est sur le client, il est sur le lecteur, il est sur l'internaute. Il n'est pas dans nos modèles d'exploitation.
Mathieu Mondoloni, article, est-ce qu'on l'achète aujourd'hui ou est-ce qu'il est gratuit ? Article que vous mettez en ligne sur le site DNA.
Ça dépend encore une fois de l'endroit où il est. Quand nous on actualise pour ce qui est de l'actualisation en temps réel du site internet, donc l'information au jour le jour, ça c'est en accès gratuit quoi. Mais c'est rien du tout par rapport au contenu général de notre journal. Mais je suis assez d'accord sur la valeur ajoutée des contenus. Le modèle économique et la gratuité aux États-Unis, on en parlait tout à l'heure, ils en reviennent un peu. Hein. Certains journaux sont en train de revenir en arrière en se disant finalement le tout gratuit, ça fonctionne pas trop.
Surtout que les recettes publicitaires qui semblaient s'imposer sur Internet ne permettent vraiment pas de financer la production d'informations.
C'est pas le même prix que dans le papier, hein, clairement quoi. Après sur le côté valeur ajoutée, moi je suis assez d'accord. Un exemple sur lequel nous on réfléchit aux dernières nouvelles d'Alsace, les contenus sportifs. Je veux dire un compte rendu de match par exemple. Pourquoi ne pas l'avoir gratuitement sur notre site internet, rapidement, le lendemain dans le journal, formule payant, avoir l'analyse, les réactions des joueurs, des entraîneurs. Pourquoi pas aussi au niveau local, puisqu'on a beaucoup de clubs dans les différents villages, proposer aux internautes un service pour le coup payant, recevez une alerte sur votre téléphone portable ou sur votre email sur le résultat des trois clubs que vous suivez habituellement. Ça, c'est une valeur ajoutée. Nous, on peut le faire parce qu'on a des correspondants dans chaque club, et les gens, à mon avis, et je me trompe peut-être, mais à mon avis, sont prêts à payer pour ce genre d'informations pour être les premiers à le recevoir.
Benoît Raphaël.
On sent bien que le payant, de toute façon, c'est surtout du service. Il ne faut pas réfléchir en disant on a vendu le papier, donc on va vendre sur Internet. Et ce n'est pas parce qu'il y a effectivement une crise et que la pub sur Internet ne permet pas de tout financer, c'est clair. Mais en même temps, le modèle payant ne fonctionne pas. Il n'y a pas vraiment de vrai modèle payant aujourd'hui, sauf sur certains sites professionnels ou encore sur lemonde.fr, par exemple, un modèle payant, mais qui est essentiellement basé sur le service. Donc, je crois
Mediapart, un modèle payant également.
Oui, Mediapart. Enfin, il n'a pas prouvé payant, que ça marchait pour l'instant. Donc, moi, je parle plutôt du monde.fr. Qui là, par contre, prouve que ça marche, puisque effectivement, c'est près de 4 millions d'euros par an qui sont. Donc, c'est plus de 10% du chiffre d'affaires. C'est 25% du chiffre d'affaires, pardon, du monde interactif. Simplement, c'est. Je crois que c'est ce qui est important là, c'est que le payant, il faut l'imaginer. On peut payer sur Internet, on peut payer un peu plus facilement qu'avant, c'est clair. Il faut encore travailler là-dessus. Il faut être assez intelligent, essayer de voir ce qu'on peut faire payer aujourd'hui et ce qu'on peut se permettre de faire payer en fonction de sa marque. Parce que quand on est le poste.fr, c'est plus compliqué de faire payer parce que la marque n'est pas complètement installée, c'est une marque grand public. Quand on est peut-être les dernières données d'Alsace, on peut peut-être faire payer sur des services, sur quelque chose parce qu'on a une marque qui est extrêmement installée. Quand on est le monde.fr, on peut. Quand on est peut-être RMC Info, on peut pas. Ça dépend en fait. fait de la marque. Mais je crois qu'il faut le faire intelligemment et essayer de comprendre ce qui se passe et voir ce qu'on peut arriver à faire payer. On est encore dans l'expérimentation aujourd'hui.
Et une marge de manœuvre encore très grande en termes d'innovation ?
Et une marge de manœuvre parce que pour l'instant, les anciens modèles se détruisent plus rapidement qu'il ne faut de temps pour créer les nouveaux modèles. Donc, il n'y a pas de nouveaux modèles. Actuellement, on ne sait pas où il faut aller. Donc, il faut de l'argent, il faut de l'oxygène, il faut un peu de courage pour innover et attendre de trouver les nouveaux modèles. Mais pour l'instant, personne n'a rien trouvé. C'est ni le payant ni le gratuit. On est encore en train d'expérimenter.
Merci d'avoir été avec nous tous les trois pour évoquer cette question de la presse quotidienne régionale face au web, face à la conversion numérique. Michel Lépinet, Mathieu Mondoloni et Benoît Raphaël, merci encore. Et toute une série de liens, évidemment, sont déjà sur le site de Place de la Toile sur franceculture.com.